Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est midi et ce journal vous est présenté par Lola Carvajal.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans l'actualité ce midi, un rassemblement se tenait ce matin devant le CPAS de Liège, un soutien au piquet bruxellois. Hier soir, Laura Goffard interpellait le conseil communal à propos de l'endométriose. Les jeunes regardent-ils toujours les comédies musicales ? Adrien Dambly s'est rendu à la rediffusion de Let's Make Love au Churchill. Et enfin, après les comédies musicales, le chant lyrique, un reportage dans le chœur universitaire d'Adrien Takoufo. Place Saint-Jacques, une trentaine de travailleurs et de représentants syndicaux se rassemblaient ce matin devant le CPAS de Liège. Une manifestation en soutien à la grève de leurs collègues bruxellois. Lola Fonta, tu t'es rendue sur place et la situation liégeoise n'est pas différente de la capitale.
Eh bien oui Lola, comme à Bruxelles, les travailleurs déplorent les conditions de travail. Sophie, assistante sociale depuis 20 ans au CPAS de Liège, regrette une perte de sens dans son travail.
C'est vraiment du travail administratif, on a plus le temps de prendre en considération la vie des gens, le suivi social des gens. Il y a de moins en moins d'agents du travail qui tiennent le coup, surtout parfois dans des situations où on doit recevoir 40 personnes, l'ordinateur qui ne va pas.
Du côté des revendications, les représentants syndicaux insistent sur un refinancement structurel. On écoute Catherine Gay, vice-présidente de la délégation CGSP-CPAS de Liège.
On n'a pas assez d'effectifs pour pouvoir effectuer un travail de qualité et on aimerait en fait que le gouvernement prenne conscience qu'il faut vraiment refinancer le service public en règle générale.
Hier soir, Laura Goffard, conseillère communale de Vérardant, interpellait le conseil de Liège au sujet de l'endométriose. Cette maladie méconnue touche une femme sur 10. Guillaume, que peut faire la ville de Liège pour aider ces femmes ?
L'endométriose, on vous le rappelle, c'est le développement du tissu de l'utérus en dehors de ses parois et sur d'autres organes. C'est une maladie intime qui reste un sujet tabou. Selon l'élu Lola, la ville de Liège a le pouvoir de libérer la parole.
Je pense déjà que la chose la plus importante, c'est la sensibilisation. La ville de Liège a un pouvoir organisateur au niveau scolaire et donc elle peut faire de la sensibilisation dans les écoles.
Elle demande aussi une intervention financière pour permettre une meilleure détection des lésions.
Il y a aussi tout simplement des subsides. Donc là, pour le moment, on a un projet dans un planning familial liégeois avec de la détection d'endométriose dans ce planning.
C'est parce qu'elle connaît bien les difficultés liées à l'endométriose que Laura Goffard veut faire changer les choses.
Moi-même, je suis touchée par l'endométriose. J'ai déjà été opérée 2 fois et donc fatalement, j'ai une sensibilité pour ce sujet. J'ai vécu en fait des années sans savoir ce que j'avais, avec des médecins qui ne m'écoutaient pas. Et donc je me dis que mon mandat est un bon moyen de défendre toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant les visites médicales que j'avais.
Elle espère que dans le futur, la ville de Liège sera un exemple en la matière pour le reste du pays.
Tous les niveaux de pouvoir ont quelque chose à amener. Mais oui, j'espère que la ville pourrait se montrer justement un peu pionnière. Tous les niveaux de pouvoir ont quelque chose à amener. Mais oui, j'espère que la ville pourrait se montrer justement un peu pionnière.
Désolée pour ce problème technique. Hier, au Churchill, se tenait une rediffusion de la comédie musicale Let's Make Love. La séance était précédée par une présentation de Dick Tomasovic, professeur de cinéma à l'Université de Liège. Le genre un peu vieillot intéresse-t-il toujours autant les jeunes ? Adrien Dambly.
Eh bien, selon Dick Tomasovic, les comédies musicales, c'est un genre un peu dépassé et il n'y en a pas assez pour davantage intéresser les plus jeunes.
Il y a très peu de comédies musicales, donc si elles avaient du succès, elles seraient beaucoup plus nombreuses. En fait, l'heure de la comédie musicale, cette heure-là est passée, évidemment, depuis longtemps. Hein. Voilà, c'est les années 30 aux années 50, comme tous les grands genres, comme le western et bien d'autres.
Malgré ça, le professeur se réjouit qu'il y a heureusement quelques intemporels qui reviennent parfois sur nos écrans, sous forme de réappropriation, voire de relecture.
Mais on n'est plus vraiment dans le genre, on est vraiment dans une relecture du genre et des propositions. Donc je ne peux pas dire que la comédie musicale existe encore, en fait, elle n'existe plus, mais certaines de ses survivances peuvent tout à fait toucher encore un public extrêmement jeune.
On pense donc au succès qu'ont rencontré La La Land ou encore The Greatest Showman, mais est-ce qu'on peut espérer un même enthousiasme pour une comédie musicale comme Let's Make Love, 63 ans après sa sortie ?
Il a quelque chose d'intemporel, il y a une forme un peu crépusculaire dans le récit lui-même. Et puis, évidemment, c'est un des derniers grands films de Marilyn Monroe. C'est un film qui a sa place dans l'histoire du cinéma, peut-être par son côté un peu crépusculaire, justement.
les jeunes et les comédies musicales, ce n'est donc pas une rupture radicale. La grandeur des comédies musicales est bel et bien passée, mais à coup de modernisation et de bon casting, certaines peuvent revenir brièvement au goût du jour.
Il est midi 5 et vous écoutez toujours votre journal sur 48FM.
Dorine fait le point sur l'actualité en bref. 8 Belges ont été évacués hier du Soudan en raison d'un conflit armé.
Il a débuté il y a 10 jours entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. Il touche principalement la capitale Khartoum et le Darfour. La situation humanitaire est très grave dans la région selon Adjalabib. Une trentaine de Belges sont encore sur place.
L'armée belge licencie un militaire d'une cinquantaine d'années, sympathisant d'extrême droite.
Un militaire de 30 ans de carrière a été écarté par la défense belge. Avant son éviction, une mise à l'écart progressive et une suspension avaient été adoptées.
En Indonésie maintenant, un séisme de magnitude 7.1 a été enregistré ce matin.
L'épicentre du séisme est survenu mardi à 3h locale. Il a été détecté près des côtes des îles Mentawai, selon l'agence géologique américaine. Les habitants se sont réfugiés dans les hauteurs. L'alerte tsunami est écartée et aucune victime ni aucun dégât important n'ont été signalés.
Au moins 7 morts et 44 blessés dans un attentat à la bombe dans un commissariat dans la ville de Kabul au Pakistan.
Plusieurs explosions à l'intérieur du bâtiment ont entraîné son effondrement. Selon le porte-parole des secours locaux, une majorité des victimes sont des policiers. Jusqu'à présent, l'attaque n'a pas été revendiquée.
Le chœur universitaire de Liège répétait pour son concert de samedi le sujet, l'œuvre « Les Béatitudes » de César Franck. À l'heure où le chant lyrique se démode, cette chorale se compose toutefois de jeunes liégeois passionnés. Adrien Takoufo les a rencontrés hier en pleine répétition.
Le chœur universitaire de Liège révise la plus grande partition de César Franck, compositeur liégeois, sous la conduite du chef de chœur. Plusieurs jeunes sont présents dans les différents pupitres. Ils ont choisi de donner de la voix à travers le chant lyrique.
J'ai commencé le chant il y a 2 ans et j'ai toujours aimé le chant lyrique. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans le fait d'être en chœur, c'est le fait d'être entouré de chanteurs expérimentés. Et surtout, ça me permet d'aborder des œuvres d'une ampleur que je ne pourrais pas aborder toute seule.
Le fait de chanter tous ensemble, c'est assez impressionnant. On est enveloppé dans la musique et c'est quelque chose qui se vit très fort. C'est un sentiment qu'on retrouve dans toute la musique chorale et dans toutes les musiques en groupe.
Pas d'autres soucis là-dedans ? Pas d'autres soucis ?
Non, parfait.
En compagnie de la chorale de l'église de la Croix de Bonne en Allemagne, le chœur universitaire de Liège présente les résultats de ses travaux ce samedi à 17h à la cathédrale de Liège. Ce sera sous un air de béatitude. Patrick Wilwert, directeur artistique.
Les béatitudes, c'est une grande construction, ce qui nous fait 8 grandes fresques musicales inspirées de l'évangile du Christ sur la montagne.
Après Liège, le chœur universitaire se produit le 30 avril prochain à Bonn, en Allemagne.
Votre journal est maintenant terminé. À suivre les longs formats des Master 2. Pour l'info, rendez-vous demain à la même heure sur 48FM. Aujourd'hui, nous recevons Romane. L'éthologie appliquée, ce sont 2 mots compliqués pour désigner quelque chose de finalement simple. Communiquer avec les animaux, avec leur propre code et langage, au lieu de leur imposer les nôtres. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet, Romane ?
Eh bien, déjà, c'est quelque chose de très peu traité dans les médias. Et ensuite, tout simplement parce que ça révèle quelque chose sur notre vision du monde et des animaux. Actuellement, il faut bien se rendre compte que notre manière d'élever et de monter les chevaux, en ce qui me concerne dans ce reportage, est totalement en inadéquation avec leur manière de fonctionner et donc de facto leur bien-être. Avec ce reportage, j'espère d'abord amener de la conscientisation chez monsieur et madame tout le monde et ensuite peut-être que des clés d'amélioration puissent être trouvées au niveau des propriétaires d'élevage et de manège.
Recule ma biche, back up. Voilà. Bien. Oh, tu te demandes ce que tu fais là, oui.
La voix, c'est celle de Patricia. Les sabots, ce sont ceux de sa jument, Luz. Patricia tient une écurie de plus de 60 chevaux. Sa particularité, elle a décidé de fonctionner selon les principes de l'éthologie appliquée.
Donc l'éthologie appliquée, elle se sert des découvertes de l'éthologie science en se disant « Ah ben tiens, on a trouvé ça, on a fait des études, des recherches, on va l'appliquer dans le milieu équestre au quotidien dans le but d'améliorer le bien-être des chevaux. » Donc en gros, c'est comment est-ce que le cheval apprend.
Se demander comment le cheval apprend pour pouvoir l'éduquer avec le langage qu'il comprend. Cette méthode, également appelée théorie de l'apprentissage, paraît aller de soi. Elle est pourtant loin de prévaloir dans tous les élevages.
On se rend compte que parfois, on demande à des chevaux des choses qui sont à la limite incompréhensibles pour lui ou confuses. Dans la théorie de l'apprentissage, on vous apprend que les jambes, c'est toujours pour aller en avant ou pour déplacer les hanches, et la main, c'est toujours pour ralentir ou pour changer de direction. Donc ça veut dire que quand on demande à un cheval, en général, de reculer en utilisant les mains et les jambes, on lui donne deux signaux absolument contradictoires. Ce cheval-là, il se dit, parfois les jambes, ça sert à aller en avant, mais parfois, ça sert à aller en arrière. Donc ça détruit le signal de la jambe.
La principale différence entre équitation dite traditionnelle et éthologie appliquée réside donc dans la manière dont le cheval fonctionne et le fait de s'en servir pour lui apprendre des choses. En bref, en éthologie appliquée, on prend en compte l'aspiration ultime du cheval, la tranquillité, pour lui apprendre une action. On va donc exercer une pression sur lui jusqu'à ce qu'il l'exécute pour ensuite directement la relâcher. Il comprendra à l'avenir qu'il doit réagir par tel mouvement s'il veut que la pression s'en aille et pouvoir être tranquille. C'est ce qu'on appelle le renforcement négatif, démonstration.
Oh, donc si je lui fais une pression, c'est désagréable pour elle. Donc elle va chercher une solution. Elle a compris que la main sur le poitrail, c'est pour lui demander d'aller en arrière. Si maintenant elle ne le fait pas, j'augmente la pression. Et si elle me propose d'autres choses à la place de reculer, comme par exemple si elle veut se mettre à avancer ou à déplacer l'heure, je continue. Je continue jusqu'à ce qu'elle me donne la réponse que je souhaite. Simplement pourquoi ? Parce que quand on relâche la pression, on récompense le cheval. Il faut récompenser la bonne réponse. Si tu récompenses au mauvais moment, ben, tu désapprends à ton cheval ou tu le rends plus confus et donc moins coopératif. Voilà. Par exemple, ici, je lui demandais à reculer. Voilà. Si je trouve qu'elle est un peu lente dans le reculer, je la touche légèrement avec la cravache. On dit toujours qu'il faut demander aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. La première demande, on la fait toujours très légère. Et si le cheval ne répond pas, alors on augmente assez rapidement l'intensité de la demande. Mais c'est le choix du cheval. À partir du moment où il a compris le signal, s'il ne veut pas y répondre, ben, on doit y aller effectivement un petit peu plus fort. Je vais lui demander, en tapotant avec la cravache, de déplacer les postérieurs. Ah ! Alors là, j'ai augmenté l'intensité de la demande. J'ai gardé le même rythme plus ou moins parce qu'elle ne répondait pas. Par contre, dès qu'elle a commencé à répondre, j'ai arrêté de demander.
Mais l'éthologie appliquée, ça ne se limite pas à une méthode d'apprentissage. Ça veut aussi dire respecter les besoins fondamentaux des chevaux qui sont en réalité complètement occultés dans la pratique actuelle.
Le cheval a besoin d'exercice libre, 3 à 4 heures minimum d'exercice libre par jour. Ça veut dire pas sous la selle, pas au travail. C'est le cheval en liberté qui fait ce qu'il veut, y compris casser les clôtures parfois, mais bon, voilà. On a découvert aussi que ce cheval qui est mis minimum 3 à 4 heures dehors par jour ne doit pas être tout seul. C'est un animal social, donc il doit être avec les copains. Alors les copains, c'est pas vous qui les choisissez pour lui, c'est lui qui doit les choisir. Parce que moi, vous me mettriez en prairie à faire de l'exercice libre 4 heures par jour avec un cheval que je ne supporte pas, ben, mon bien-être et mon moral ne seraient pas tout à fait au beau fixe. Et ensuite, ben, la nourriture à volonté. Le cheval est fait pour manger au minimum 16 heures par jour parce que son système digestif sécrète des acides pour digérer ce qu'il mange et que
si ces acides qui sont sécrétés en permanence ne trouvent rien à attaquer comme nourriture, parce que le cheval est sur copeaux et qu'il a du foin une fois par jour et un peu de grain, bah, cet acide va s'attaquer aux parois de son tube digestif et ça va faire des ulcères. Bon, les chevaux sur copeaux, je pense qu'ils n'ont pas de quoi grignoter toute la journée, c'est assez catastrophique. Donc tout ça, c'est de l'éthologie appliquée. À partir du moment où la science a prouvé que les besoins, les trois besoins fondamentaux des chevaux sont de l'exercice libre, des contacts sociaux et du foin à volonté, bah, ça veut dire que la vie qu'on fait mener à la plupart des chevaux à l'heure actuelle, c'est-à-dire 23 heures sur 24, ça tronche tout seul dans un box séparé des autres, avec, s'il a de la chance, une heure de sortie par jour, ben, ça va à l'encontre du bien-être animal et ça va à l'encontre de ce que la science a dit qui était bon pour les chevaux.
Alors pourquoi l'éthologie appliquée ne prévaut-elle pas dans tous les manèges et structures équestres ? Principalement parce que les découvertes liées à l'éthologie appliquée sont seulement apparues dans les années 1960-1970. Elles sont donc assez récentes et leur mise en application, de facto, prend du temps. La loi belge n'oblige à rien en la matière, contrairement à la Suisse par exemple. Là-bas, des réglementations strictes ainsi que des examens sont de rigueur pour vérifier que les propriétaires au-delà de 4-5 chevaux sont bien capables d'en détenir. Mais ce genre de réglementation a provoqué énormément de remous dans le milieu équestre, que ce soit en Belgique ou ailleurs.
L'éthologie appliquée, je pense qu'elle va devenir la norme. Le respect du bien-être animal du cheval dans ce cas-ci va devenir la norme et va devenir la loi. C'est possible, nous, ça a été possible, tout n'est pas parfait, c'est clair, mais par exemple, là où il y avait 6 boxes de 3 sur 3, ben, on a abattu les cloisons intermédiaires des boxes et on en a fait une stabulation. Et il y a deux chevaux de trait et un cheval de selle qui vivent ensemble. Mais quand vous avez une structure que vous avez reprise ou que vous avez construite avec vos connaissances du moment, et puis qu'on vous apprend que le box de 3 sur 3, c'est un peu trop petit, que la loi change et qui vous oblige d'office à un 4 sur 4, par exemple, ben, c'est un peu dramatique pour l'exploitant, pour la personne qui travaille, qui essaye de s'en sortir et qui a des boxes de 3 sur 3. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire tomber tous ses murs. Donc, on s'adapte, on essaye de faire les changements comme on peut, mais je pense que ça va provoquer plus que des remous, ça va aussi provoquer des catastrophes dans le milieu professionnel parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas s'adapter. Parce que qui dit s'adapter dit aussi investir, il n'y a rien à faire.
Mais pour Patricia, si cette situation est difficile pour certaines structures équestres, d'autres sont financièrement capables d'assumer ces changements. Simplement, elle préfère fermer les yeux parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais ça n'est pas sans conséquences.
Toute personne qui approche un cheval ou qui monte un cheval a en moyenne un accident toutes les 350 heures. C'est 20 fois plus qu'un motard. Sur 3000 chevaux, des chevaux de maximum 8 ans, 66,1% d'entre eux, en gros, n'y allaient pas pour une boiterie ou pour un problème de santé. À part un problème de comportement, je ne vois pas ce qui pourrait justifier le fait qu'on envoie un cheval à l'abattoir. Donc c'est clairement 66,1% de chevaux jusqu'à 8 ans envoyés à l'abattoir qui le sont pour des problèmes de comportement. Alors, si ça n'ouvre pas les yeux des gens qui se disent oui, « mais pourquoi est-ce qu'on va changer notre manière de faire? On a toujours fait ça. » Ok, bah, tu risques un accident toutes les 350 heures que tu passes dessus ou à côté d'un cheval et tu risques de devoir changer souvent de cheval puisque toi tu veux pas te remettre en question, bah, tu vas dire ok, bah, moi je sais, hein, donc si ça marche pas c'est que le cheval n'y comprend rien, que le cheval est dangereux, donc je vais changer de cheval. Ne pas connaître quelque chose, ne pas être au courant d'une information, c'est pas encore très grave. Mais à partir du moment où on la connaît, où on sait que cette information, si elle est appliquée, améliore le bien-être des chevaux, je pense que c'est criminel de ne pas l'utiliser, quoi, de ne pas l'appliquer, de ne pas essayer, en tout cas, de l'appliquer du mieux qu'on peut.
L'éthologie appliquée, des changements simples, donc, basés sur l'observation et la compréhension de l'animal, changements difficiles, mais pas insurmontables. Il en va du bien-être du cheval, voire de sa vie, et parfois même de la nôtre.
Tiens, t'as bien fait ça, ma belle, t'es une comédienne née.
Merci Romane pour ton reportage.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi pour votre journal parlé.